Donc Munchausen, les craques et le coucou. De qui s'agit-il? Le baron de Munchausen n'a sans doute jamais connu en France une notoriété comparable à celle dont il jouit dans d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la Russie, notoriété qui fait là-bas, dans ces pays, de lui, l'égal, par exemple, du Gulliver de Swift ou du Cyrano de Rostand. C'est pourquoi, donc, il n'est sans doute pas inutile de rappeler d'abord de qui il s'agit. L'homme a existé. Il se nommait Carl Friedrich Hieronymus, il a vécu au XVIIIe siècle, il fut officier, il servit dans les rangs de l'armée russe avec laquelle il combattit les troupes de l'Empire ottoman. Sa célébrité, il la doit à une fabuleuse faculté de conteur confinant à la mythomanie. Les aventures invraisemblables et extravagantes dont il se prétendait le héros firent à l'époque sa gloire. Notamment, le baron de Munchausen racontait volontiers comment il avait voyagé, d'où le rapprochement avec Gulliver et Cyrano, comment il avait voyagé dans les airs en chevauchant un boulet de canon et volé ainsi jusque sur la Lune où il avait fait la connaissance de Vénus. Munchausen doit sa notoriété à un écrivain qui s'appelle Rudolf Erich Raspe et qui recueillit le récit de ses exploits imaginaires et les publia en 1786. Je l'ai appris à l'occasion de la petite recherche que cette intervention m'a demandé. Ce texte fut publié donc en 1786, mais d'abord en anglais à Oxford, sous la forme d'un petit volume dont je vais rappeler le titre interminable, car je crois qu'il mérite d'être intégralement cité. Donc en anglais, Baron Munchausen's Narrative of His Marvelous Travels and Campaigns in Russia, humbly dedicated and recommended to country gentlemen, and if they please to be repeated at their own after a hunt, at horse races, in watering places, and other such polite assemblies round the bottle and fireside. Ah, c'est le titre. Donc l'ouvrage fut rapidement traduit en plusieurs langues, à commencer naturellement par l'allemand, et j'imaginais que le livre avait d'abord été écrit en allemand. Du vivant même de Munchausen, et au grand déplaisir de celui-ci, l'affabulateur formidable et un peu ridicule dont les prouesses enchantaient déjà l'Europe, devint presque immédiatement un personnage de légende. Et je me rappelle avoir lu ses aventures autrefois dans une vieille édition illustrée destinée aux enfants. Le nom de l'officier, relativement difficile à prononcer pour nous, avait été francisé pour l'occasion. Le baron de Munchausen était devenu le baron de Crack, au sens de l'expression familière « raconter des cracks pour dire des mensonges ». Le nom du héros de Raspe a toutes les chances de désigner pour l'homme d'aujourd'hui quelque chose de très différent du fantasque livre laissé par l'écrivain et passé depuis à la postérité. Il s'applique en effet à un trouble de la personnalité de l'ordre de la pathomimie, trouble reconnu comme tel par l'officiel Classification internationale des maladies, et que les encyclopédies définissent comme, je cite, « une pathologie psychologique caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion ». Et je pense que petit à petit, vous voyez vers où je veux en venir. On doit à un médecin anglais, le docteur Richard Asher, d'avoir baptisé en 1951 « syndrome de Munchausen », une pareille pathologie qui voit donc des individus mimer un mal censé les affliger afin de convaincre leur entourage de son existence. Et la référence au fameux baron allemand est là seulement pour indiquer quel lien existe de la mythomanie du personnage au syndrome qui porte désormais son nom. De cette maladie, une variante existe qui sans doute en constitue désormais la forme la mieux connue. Elle a été décrite en 1977 par un autre savant anglais, un pédiatre cette fois-ci, le docteur Roy Meadow. Il s'agit du syndrome de Munchausen par procuration. Il concerne principalement des parents qui inventent pour leurs enfants des maladies imaginaires, au risque d'ailleurs de provoquer chez ces derniers des symptômes bien réels, afin d'apitoyer autrui sur leur propre sort. Non pas le sort des enfants, mais le sort donc des parents qui inventent ces maladies et qui les attribuent à leurs enfants. Une vaste littérature scientifique documente abondamment de tels cas. Et on le vérifiera sans peine, si on ne m'en croit pas, en consultant des ouvrages ou des sites de vulgarisation médicale semblables à ceux dont vous l'avez deviné, je tire moi-même les informations qui précèdent et que je viens de vous donner. Alors, mon intention n'est pas vraiment de revenir sur la polémique consécutive, autre précision, à la parution en 2007 de Tom est mort, le roman de Marie Dariussecq, et à l'article que Camille Laurence lui a aussitôt consacré dans la revue littéraire des éditions Léo Cher. Disons pas exactement. Pourtant, l'affaire le mérite, à juste titre elle a fait date, et pour cette raison elle est bien connue, de vous nécessairement, mais je pense du grand public également. Ou plutôt, l'affaire devrait être bien connue si le propre des polémiques n'était justement de se développer à la faveur des malentendus, des contre-vérités qu'elle propage, ce qui fut précisément le cas. Alors j'ai toujours pensé qu'on pourrait très utilement écrire une histoire intellectuelle et littéraire de la France en étudiant les grandes controverses qui ont marqué cette histoire et qui ont périodiquement entouré la parution d'ouvrages comme, je cite quelques exemples parmi beaucoup d'autres, L'homme révolté d'Albert Camus, Le voyeur d'Alain Robbe-Grillet, Le sur-racine de Roland Barthes, Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, ou plus près de nous, par exemple, Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, pour me limiter donc à ces quelques exemples. Autour de textes dont la qualité intrinsèque est très variable, et parfois éminemment douteuse, on verrait apparaître les lignes de force, les lignes de front, les lignes de fracture, autour desquelles s'organise le présent d'une époque et se cristallise tel ou tel de ses enjeux essentiels. Si l'affaire Dariussecq importe, et vous l'avez compris, elle me semble importer, pour nous, mais de manière plus générale, c'est en raison des questions qu'elle pose, touchant notamment au rapport entre la vérité et la fiction, entre la littérature de témoignage et la littérature d'imagination, du fait de ce que cette affaire nous dit du droit ou du devoir pour l'écrivain de s'approprier éventuellement l'expérience d'autrui, afin de la faire servir son propre propos poétique ou romanesque, enfin de ce qu'elle nous dit finalement des problèmes éthiques et esthétiques qui se déduisent d'un pareil dilemme. De tels sujets concernent tous les auteurs, tous les lecteurs, certains davantage que d'autres cependant. Alors pour m'exprimer un peu en mon nom propre, je dirais ceci. Je me rappelle avoir reçu au cours de l'été 2007, il me semble l'avoir déjà raconté, en service de presse, donc un exemplaire de Tom est mort accompagné d'un mot de l'auteur. Comme je ne garde pas les lettres que je reçois, que je les égare, comme il est rare que j'y réponde et comme lorsque je réponds néanmoins, je ne conserve pas le double des réponses que je fais, comme c'est le cas de certains écrivains de ma connaissance, désireux de faciliter le travail des futurs éditeurs de leur correspondance complète, il m'est aujourd'hui malaisé de reconstituer mon échange épistolaire d'alors avec Marie Dariussecq. Il me semble cependant que, réagissant à ce qui m'est apparu de sa part comme une demande de bénédiction ou bien d'absolution pour le livre qu'elle venait d'écrire, et dans lequel elle tournait en fiction l'expérience vécue que j'avais moi-même relatée dans plusieurs de mes ouvrages depuis l'enfant éternel, j'ai écrit donc à l'époque à Marie Dariussecq que je ne trouvais rien de choquant ni d'invraisemblable dans la reconstitution réaliste qu'elle proposait de la psychologie d'un parent en deuil, mais quant à savoir si l'on avait le droit de faire un roman de la mort, fictive ou réelle d'ailleurs, d'un enfant, je crois lui avoir répondu, que je ne me sentais pas pourvu de l'autorité légitime pour répondre à sa place à la question qu'elle s'était nécessairement posée, et que d'ailleurs, je considérais qu'un pareil livre, sur la mort fictive ou réelle d'un enfant, j'avais eu aussi peu le droit qu'elle de l'écrire. Ce qui, bien entendu, pouvait également signifier qu'elle en avait autant le droit que moi, et je ne doute pas que ce soit ainsi qu'elle l'ait entendu. Avant l'affaire, et puis après elle, j'ai souvent exprimé ma position concernant les questions éthiques et esthétiques qu'elle soulève. De manière plus ou moins directe en abordant la poétique du témoignage littéraire à partir de Primo Levi, en commentant la définition que Joyce donne du sentimentalisme dans Ulysse, ou encore en rappelant à quelles conditions selon Kierkegaard, il est possible de se présenter comme un témoin de la vérité. En revanche, et même s'il est plusieurs fois arrivé que mes livres soient alors cités à titre d'exemple et donnés comme argument, afin d'ailleurs de servir tantôt l'une et tantôt l'autre des deux thèses en présence, je suis peu intervenu, et rétrospectivement je l'ai regretté, d'où peut-être l'intervention d'aujourd'hui, que je vous propose aujourd'hui, je suis peu intervenu dans la polémique à proprement parler. Interrogé par des journalistes, il m'est seulement arrivé de leur rapporter ce qu'avait été ma réponse à Marie Darrieussecq, comme je viens de le faire à nouveau il y a un instant, et de manifester donc ma solidarité avec Camille Laurence, en raison de ce que j'estimais être la justesse de la position qu'elle défendait, et du fait de la violence des attaques dont assez vite elle est devenue l'objet, et qui confinait parfois, me semble-t-il encore aujourd'hui, qui confinait parfois au lâchage symbolique. Sur le fond, je crois n'avoir rien à ajouter par rapport au contenu du premier des textes dans lesquels je me suis exprimé sur le caractère à la fois indispensable et impossible, nécessairement coupable, du témoignage littéraire, en prenant principalement appui sur un essai célèbre de Primo Levi intitulé « Les naufragés et les rescapés », essai que je pense vous connaissez et qui porte précisément sur cette question du témoignage littéraire et des conditions auxquelles, tout en étant impossible et coupable, il apparaît cependant comme nécessaire et voire indispensable. Je me suis expliqué là-dessus dans un texte qui s'intitule « Pour une poétique du témoignage ». C'est une conférence que j'ai donnée en 2001, qui a été publiée par la suite l'année suivante dans un ouvrage collectif « Littérature sous contrat », puis que j'ai repris en janvier 2007 dans mon troisième recueil d'essais paru aux éditions Cécile Defaux, « Le roman, le réel ». Donc je renvoie à ce texte. Pour autant que je puisse y renvoyer, puisque j'ai fait décommercialiser et envoyer au pilon l'ensemble de mes essais qui avaient paru aux éditions Cécile Defaux pour protester contre la manière dont la fondatrice de cette maison d'édition avait été évincée par le groupe éditorial qui en a pris le contrôle. Bon, enfin, le livre existe toujours en bibliothèque, en tout cas. Donc, je ne vais pas revenir sur ce texte lui-même, auquel je vous renvoie éventuellement. Mais en revanche, avec l'esprit de l'escalier, il me semble que ce que Camille Laurence a très justement décrit sous le nom de syndrome du coucou peut également, et peut-être utilement, se dire aujourd'hui à nouveau à l'aide de l'appellation de syndrome de Munchausen que je viens à mon tour d'introduire. D'où les quelques remarques donc que je souhaiterais proposer maintenant en prenant appui sur le texte de Camille Laurence et en revenant sur la position qu'elle a prise. En espérant ne pas être infidèle à sa pensée, mais elle me le dira éventuellement, je rappellerai en quelques mots la démonstration donc qui a été développée par Camille Laurence. Contrairement à ce que l'on a immédiatement prétendu, afin de déplacer le débat sur un terrain autre que celui sur lequel il se situait vraiment, déformant du même coup l'argumentation avancée par Camille Laurence, afin de mieux donner l'illusion de la réfuter, contrairement également à ce que répète depuis et se rappelle peut-être de bonne foi ceux à qui il arrive d'évoquer l'affaire concernée, il me semble que la question n'est que très accessoirement, secondairement en tout cas celle du plagiat, au sens juridique du terme, car aucun procès, bien entendu, n'a été intenté dont on ne voit pas très bien devant quelle juridiction compétente il aurait pu être porté. Donc non pas au sens juridique du terme, mais pas même au sens littéraire, puisque personne n'ignore depuis toujours le rôle que joue la réécriture délibérée et la réminiscence involontaire dans tout processus de création. Il me semble que Camille Laurence se place dans une toute autre perspective, en introduisant la notion très opératoire et nouvelle, pour autant bien sûr qu'une chose puisse être nouvelle dans un domaine aussi immémorial que celui de la création littéraire, cette notion très opératoire, et donc qui peut à juste titre paraître nouvelle, c'est celle de plagiat psychique. Elle vise cette posture, explique Camille Laurence dans son texte, qu'adopte un individu qui, en imitant un autre, s'identifie à lui, en se prévalant d'une expérience qu'il n'a pas connue, mais qu'il s'approprie cependant, prétendant pouvoir, par le jeu de l'empathie et de l'imagination, exprimer souverainement une pareille expérience. Tel est, explique Camille Laurence, le syndrome du coucou, dont on raconte, le coucou, qu'il a l'habitude de déposer ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. À la faveur d'une pareille opération de substitution, ce qui avait été une expérience vécue, en l'occurrence la perte d'un enfant, se transforme en un thème, susceptible de se prêter à une mise en fiction, produisant de l'événement une représentation qui, aussi réaliste qu'elle soit, vide ce même événement de la charge dont il était porteur et réduit le récit qui en est fait au statut de simulacre. Tel est bien le jeu de ce qu'on appelle en général la catharsis et que Camille Laurence décrit en ces termes, donc je la cite, on jouit de sa propre peur, puis à la fin, comme au cinéma, on s'ébroue, on relit roman sur la page de garde, et l'on se débarrasse du cauchemar virtuel où nous a plongé avec talent ce simulacre. Or, c'est moi qui continue, un tel procédé, qui est loin d'aller de soi, contrairement à ce que l'on affirme volontiers, et contre lequel il s'est trouvé de très nombreux auteurs prestigieux, je ne les nommerai pas, ils sont nombreux pour parler dans le passé. Un tel procédé donc n'est pas sans effet, puisque pour citer encore Camille Laurence, il conduit à déréaliser la souffrance et la mort en les exhibant pour mieux les oublier. Je répète peut-être cette formule parce qu'elle me semble condenser de la façon la plus exacte et la plus frappante ce qui est au cœur véritablement de la position adoptée par Camille Laurence. Donc, et qui consiste à contester donc un procédé dans la mesure où ce procédé conduit, je le répète, donc je répète les termes utilisés par Camille Laurence, à déréaliser la souffrance et la mort en les exhibant pour mieux les oublier. En 2010, Marie Dariussec a elle-même répondu aux critiques dont elle avait été l'objet dans un volumineux essai intitulé « Rapport de police ». Ouvrage que j'ai lu récemment, et d'ailleurs très réussi et tout à fait remarquable, par l'intelligence, la culture et surtout l'habileté rhétorique que l'auteur y déploie. Pour autant, cependant, que l'on puisse qualifier de réussi et de remarquable, une démonstration au sein de laquelle de pareilles qualités sont mobilisées afin de développer une thèse que l'on pourrait, avec les mêmes résultats, retourner comme un gant afin de lui faire signifier le contraire de ce qu'elle dit, dès lors que l'on partage des convictions contraires à celles qu'elle exprime. L'auteur, Marie Dariussec, donc qui retourne l'accusation dont elle avait été la victime, diagnostiquant chez celles qui lui reprochèrent de les avoir plagiées, une sorte de trouble de la personnalité comparable à l'érotomanie, trouble qu'elle baptise plagiomnie, et dans lequel elle reconnaît le désir qu'éprouvent à tout prix certains écrivains d'avoir été plagiés. Sur un mode quasi délirant, continue Marie Dariussec, une telle attitude traduirait de façon quasi paroxystique une haine de la littérature entendue comme fiction et donnée comme, je cite Marie Dariussec, témoignage imaginaire. Je m'arrête sur une telle expression, témoignage imaginaire. Dariussec définit le roman à la façon d'un témoignage, mais d'un témoignage qui, puisqu'il est imaginaire, peut tout à fait se dispenser de l'expérience sur laquelle, d'une manière ou d'une autre, il est malgré tout censé s'appuyer, puisque c'est de cette expérience que précisément il porte témoignage. Je cite Marie Dariussec, « La vie, la douleur ne donne aucun droit, aucun devoir quant à ce qui s'écrit. Une biographie, continue Marie Dariussec, n'a jamais justifié une œuvre. » Et à la limite, continue-t-elle, un récit purement fictionnel peut dire davantage le vrai que la parole même de celui qui a connu personnellement l'épreuve dont un autre écrivain ne doute pas qu'il parviendra mieux que lui à l'exprimer. Car en de telles matières, tout est affaire de style, dit Dariussec. La trahison est dans le style. Et si la trahison est dans le style, la fidélité à la vérité aussi. Mais ici, c'est sur la notion de style qu'il faudrait maintenant s'arrêter. Car, à la différence de ce que laisse entendre Marie Dariussec, le style ne se confond aucunement avec une certaine idée du bien écrire, à la condition d'ailleurs que quiconque sache ce que c'est que bien écrire. Il n'y a pas lieu, comme elle le fait, opposant Chalamov et Solzhenitsyn par exemple, il n'y a pas lieu de discriminer scolairement entre les bonnes métaphores des uns et les mauvaises métaphores des autres, en réservant le privilège des premières, les bonnes, à ceux qui se sont tenus à l'écart d'une réalité qu'ils se sont contentés de tourner en image conforme au bon goût du lecteur. Je rappelle la fameuse phrase de Proust définissant dans Le Temps retrouvé le style comme une question non de technique, mais de vision. Ce que Marie Dariussec d'ailleurs reconnaît, je vais essayer autant que possible de ne pas répondre à la mauvaise foi par la mauvaise foi, mais le propre d'un point de vue, ajouterais-je, corrigeant Jean la position qu'elle adopte, le propre d'un point de vue, si l'on s'en tient à la définition du style que Proust a donnée, le propre d'un point de vue est précisément de dépendre de la position personnelle depuis lequel on pose son regard sur le monde, le voyant, le donnant à voir. C'est pourquoi, pour ma part, je crois assez qu'il n'y a de vérité qu'à la première personne du singulier. Ce qui dérange dans Tom est mort n'est pas que ce livre traite de la mort d'un enfant. Beaucoup d'écrivains l'ont fait et continuent à le faire sans qu'il y ait lieu de leur jeter la pierre. Par exemple, en racontant l'assassinat d'un petit garçon ou d'une petite fille par la nourrice aux soins de laquelle ce petit garçon ou cette petite fille avait été confié. Ce qui peut donner à un très grand roman tragique comme le Requiem pour une nonne de Faulkner, ou bien un honorable et inoffensif livre à succès, conforme en tout point aux attentes de son lectorat, et dont on voit bien qu'il est comme la novélisation par anticipation du film qui en sera tiré. C'est affaire de style, en effet, et le style, ici, différencie un grand livre d'un autre qui ne l'est pas. C'est affaire de style, de vision. Non, ce qui gêne dans Tom est mort, et je m'efforce à nouveau d'être aussi honnête que possible, ce qui gêne dans Tom est mort, Marie Dariussec l'a bien compris, qui le revendique explicitement, c'est que ce roman simule la forme d'un récit véridique tout en ne se donnant pas pour tel. En ce sens, il s'agit du contraire d'une autofiction. Là où l'autofiction exprime une vérité sous la forme de la fiction, le roman de Dariussec élabore une fiction à laquelle elle donne l'apparence de la vérité. Afin, comme l'écrit Camille Laurence, je répète la citation que j'ai déjà avancée tout à l'heure, afin de déréaliser la souffrance et la mort en les exhibant pour mieux les oublier. Je m'arrête là. Il est sans doute inutile de reprendre ici une démonstration qui a déjà été développée de manière impeccable par Camille Laurence dans Le syndrome du coucou, que j'espère moi-même avoir conduite de façon convaincante dans plusieurs textes depuis L'enfant éternel, et qu'ont illustré d'ailleurs avant nous de très grands écrivains dont l'autorité est moins que la nôtre susceptible d'être mise en doute, affirmant tous qu'il n'est pas de littérature qui vaille, si elle n'est gagée d'une manière ou d'une autre sur l'expérience, sur l'épreuve du réel. Et j'ouvre une petite parenthèse dans le propos que j'avais préparé. En venant de Paris ce matin, j'ai lu le Monde des Livres, j'y ai lu le feuilleton d'Éric Chevillard, qui portait hier sur un recueil de poèmes de Laurent Godet, intitulé « De sang et de lumière ». Éric Chevillard n'est pas susceptible d'être soupçonné de pratiquer une littérature comparable à celle que pratique Camille Laurence ou que je pratique moi-même. Et cependant, comme tout lecteur de bonne foi, me semble-t-il, il réagit à l'imposture que Camille Laurence a dénoncée avec la même violence n'ont pas la même violence parce que son ton est différent, mais en tout cas avec la même netteté que Camille Laurence donc l'a fait dans Le syndrome du coucou. Enfin, vous lirez l'article si vous ne l'avez pas lu, mais apparemment ce recueil de poèmes de Laurent Godet repose sur le principe suivant: faire parler à la première personne du singulier sous forme de poème les victimes d'un certain nombre de guerres et de catastrophes contemporaines. Et bien sûr, ce que conteste Éric Chevillard, c'est exactement ce que Camille Laurence avait elle-même contesté, bien que Éric Chevillard soit moins engagé dans l'histoire que Camille Laurence ne l'était, mais c'est cette espèce de tour de passe-passe par lequel quelqu'un, à l'abri d'une catastrophe dont il fait un spectacle, prétend pouvoir parler mieux que ceux qui ont été victimes de cette catastrophe, de la souffrance qui a été la leur, de telle sorte qu'il s'agit bien pour l'écrivain d'usurper une place qui ne lui appartient pas, de s'approprier une parole qu'il restitue sous la forme de ce qu'il faut bien appeler un mensonge. Donc, je disais que il n'est pas de littérature qui vaille si elle n'est gagée d'une manière ou d'une autre sur l'expérience, sur l'épreuve du réel. Tout cela a déjà été écrit et toujours susceptible d'être lu, mais bien sûr ne sera lu et compris que par ceux et celles qui en auront fait le choix. Car il s'agit moins ici d'un débat esthétique que d'un différend éthique dans lequel il revient à chacun de choisir souverainement son camp. Rien n'a davantage donné raison à Camille Laurence que la manière quasi unanime dont on lui a donné tort. L'hostilité, la réprobation, parce qu'elle montre à quel tabou on a touché, sont la meilleure preuve, parfois, que l'on est dans le vrai. Marie Darrieussecq rappelle avec à propos dans Rapport de police que le plagiaire est étymologiquement un voleur d'enfants. Et elle cite en épigraphe de son essai, avec plus de pertinence encore, un passage de L'homme qui rit de Victor Hugo. Je termine donc en revenant sur le syndrome de Munchausen par procuration dont j'étais parti. Un homme, une femme, au risque de mettre en péril la vie de celui-ci, donne en spectacle la souffrance et la mort imaginaire de son enfant afin de spéculer sur le prestige que lui procure l'apitoiement d'autrui. Je crois que tout est dit quant au sentimentalisme social qui sévit aujourd'hui et qui prend la forme d'un véritable vampirisme conventionnel à la faveur duquel le tragique se trouve constitué en un inoffensif objet de jouissance dont l'image n'est multipliée partout qu'afin de mieux proscrire l'expérience de vérité à laquelle il devrait donner accès. Et je cite pour terminer un penseur dont le caractère paradoxal rend souvent malaisé la compréhension, mais qui pourrait bien avoir été le plus juste, ou disons l'un des plus justes observateurs, du monde dans lequel, à notre insu, nous sommes déjà entrés. Dans Le crime parfait, Jean Baudrillard décrit ce qu'il nomme le nouvel ordre victimal. Là où l'indifférence règne, même le pire semble préférable au rien. L'individu s'en va, écrit Baudrillard, se refaire une réalité là où ça saigne. Quand le sens a disparu, l'ultime tentative conduite afin de se donner à soi-même l'illusion qu'il existe encore consiste à, nouvelle citation de Baudrillard, consiste à réalimenter le vivier de la valeur, le vivier référentiel, en faisant appel à ce plus petit commun dénominateur qu'est la misère humaine. Fin de citation. La victime, je continue à paraphraser Baudrillard ou à résumer son propos, la victime seule, nous dit Baudrillard, semble vivante et pourvue encore d'une identité en raison même du malheur qui l'afflige. Mais elle ne se trouve exaltée dans sa différence que pour mieux se trouver dépossédée du privilège qu'on lui prête. Authentique bouc émissaire dont la mise à mort permet à la société de s'associer imaginairement à une souffrance qui l'épargne et dont elle ne souhaite que les signes sans effet afin de pouvoir sentimentalement en jouir au détriment même de ceux qui, sous ses yeux, de cette souffrance périssent. Beaucoup d'écrivains, à commencer par Artaud, ont vécu et expliqué tout cela. L'ont expliqué parce qu'ils l'avaient vécu. Mais pour se convaincre de la réalité du phénomène, il suffit d'ouvrir la télévision, d'y tomber sur le journal, le Téléthon, la menu monnaie du talk show et des émissions de télé-réalité, ou bien de parcourir le tout venant d'une production romanesque et poétique, cynique et sentimentale, au sein de laquelle, prétendant parler en toute bonne conscience au nom du bien, des écrivains spéculent confortablement sur le malheur du monde, dont, au fond, ils ne veulent surtout rien savoir. Je ne sais pas si Jean Baudrillard aurait souscrit aux propos que je tiens, et qui lui auraient sans doute paru trop positifs encore, mais quand le virtuel se substitue au réel, lorsque se multiplient les simulacres, que prolifèrent les copies, que les signes ne renvoient plus qu'aux signes et qu'ils résonnent tous du même vide, on peut encore prendre le pari que l'honneur d'un écrivain consiste à ne pas renoncer à dire ce qui nous relie encore à la réalité, au peu que nous possédons et qui nous préserve humains. Merci.